Les modifications climatiques menacent les secteurs économiques et la production alimentaire dans l'Aude.
Il y a de moins en moins de neige chaque année.
L'érosion de la biodiversité, destruction des sols, pollution des eaux, déclin des pollinisateurs, dérèglement climatique.
Qu'est-ce qu'on peut faire alors ?
Manger.
Encourager la diversification des cultures.
Investir dans des technologies d'irrigation intelligentes.
Faciliter l'accès aux produits locaux.
Demain.
Investir dans des pratiques agricoles régénératives pour réduire l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques qui nuisent à notre santé et à notre environnement.
Manger demain, une série réalisée par les élèves de Terminale G4 du lycée Jacques Ruffier.
Salut les futurs écolos, on se retrouve aujourd'hui avec Jessica.
Salut.
Laurie.
Salut.
Victoria.
Coucou.
Et moi-même. Mais aujourd'hui, Laurie, quel sujet va-t-on aborder ?
Ben Mathilde, on va parler des freins qui empêchent nos internautes de changer leur comportement. Mais pourquoi ? Ben pour réduire le bilan carbone pour l'alimentation.
Pour que vous compreniez mieux, tout d'abord parlons de l'érosion de la biodiversité, destruction des sols, pollution des eaux, déclin des pollinisateurs, dérèglement climatique ou encore l'insécurité alimentaire.
Mais pourquoi tu dis tout ça, Victoria ?
Bah, pour prendre conscience de l'urgence de nos modes de production. Tout le monde ne sait pas que la production agricole est responsable d'environ 20% des émissions de gaz à effet de serre et de 70 à 80% de la déforestation dans le monde. Ça fait beaucoup, hein ?
Mais Victoria, j'ai pas bien compris. Quels sont exactement ces modes de production ?
Pour faire clair, ces modes sont l'élevage intensif, culture du soja, de l'huile de palme.
D'ailleurs, dans un pot de Nutella, il y a 20%.
Ou encore l'agriculture vivrière.
Donc, si j'ai bien compris, les grands écosystèmes naturels mondiaux disparaissent peu à peu. Dit comme ça, c'est alarmant, c'est presque flippant.
Mais bon, dites-vous que les océans aussi ne sont pas épargnés. Vous savez que 93 des stocks de poissons sont surexploités, voire pleinement exploités.
Pauvres poissons. Mais attends, pourquoi en fait ?
Tu penses que c'est pourquoi ? Bien évidemment, c'est pour nous, pour notre consommation personnelle qui ne cesse d'augmenter.
Bah après, Laurie, avoue que le poisson c'est bon. Mais bon. Si je peux me permettre, la production alimentaire mondiale devrait être suffisante pour satisfaire aux besoins alimentaires des 7 milliards d'êtres humains.
Ben, elle permet d'y répondre une fois et demie, soit une personne sur trois ne mange pas à sa faim. Et 30% de la nourriture est perdue ou gaspillée dans le monde.
Dites-vous que certaines marques, dont on ne va pas dire le nom, non, je rigole, Hug, vont utiliser la peau d'agneau et jeter le reste en mer.
En plus de la maltraitance, une potentielle nourriture est jetée en mer. C'est désastreux.
Tout ça pour des chaussons.
De plus, de la production des aliments jusqu'à leur consommation, notre modèle alimentaire contribue aussi au réchauffement de la planète, avec la consommation d'énergie, la pollution et le gaspillage.
Même si les pratiques évoluent, les impacts sont là à toutes les étapes.
Notamment l'utilisation d'engrais et pesticides,
dégradation des sols et des réserves en eau,
forte consommation d'énergie,
la consommation d'eau utilisée pour la transformation des aliments, le transport essentiellement routier qui pollue l'air et émet les gaz à effet de serre.
Et sans oublier l'impact des importations par avion ou même par bateau. Puis vient le stockage et la conservation. Par exemple, dans les grandes surfaces alimentaires comme Intermarché, Leclerc ou autres, la réfrigération représente à elle seule 40% des consommations d'énergie. Surprenant, non ?
Puis, il n'y a pas que les moyens de production ou de transport qui posent problème. Mais roulement de tambour ? Mathilde, tu peux faire le tambour ?
Non, Victoria.
Bon, d'accord. Je disais aussi qu'il n'y a pas que les transports et les modes de production qui posent problème, mais aussi les consommateurs, comme aller faire ses courses, garder ses aliments au frais.
Cuisiner, tout cela consomme encore de l'énergie.
Mais attends, Laurie, tu as oublié les déchets d'emballage alimentaire qu'il faut collecter, traiter, recycler ou incinérer.
Et pourtant, à titre informatif, d'après WWF et l'ADME, consommer des produits de meilleure qualité avec un impact moindre sur l'environnement, c'est à la portée de tous.
En plus, bon, ces dernières années, la question de la réduction du bilan carbone de l'alimentation est devenue de plus en plus importante.
Mais malgré les avantages environnementaux et sanitaires de la réduction du bilan carbone de l'alimentation, il y a encore de nombreux freins à son adoption.
Donc, comme premier frein, il y a le manque de sensibilisation et d'éducation. Entre nous, de nombreuses personnes n'ont pas encore conscience de l'impact environnemental de leur alimentation.
La destination du produit, même si elle figure sur l'emballage, n'est pas encore un critère suffisant de choix du produit.
Un deuxième frein, on peut parler des réseaux avec le choix de consommation, qui est souvent influencé par les publications publicitaires ou un certain mode de vie décrit dans les séries télé.
Et franchement, à tous les âges.
Il y a aussi les phénomènes d'identification dans les processus de consommation. C'est peut-être important pour certains consommateurs de pouvoir consommer ce qu'ils aiment et ce, à n'importe quel moment de l'année. sans se soucier forcément du coup de la saisonnalité de certains aliments. On a un exemple, les fraises égyptiennes en décembre qu'on achète à Leclerc. Cela montre un troisième frein.
On peut presque parler d'agro-business finalement.
Après Mathilde, il faut prendre conscience du coût élevé des aliments durables. Les aliments respectueux de l'environnement peuvent être plus coûteux que les aliments conventionnels.
Après, cela peut être difficile pour certaines personnes de les acheter régulièrement.
Oh, là, on est déjà à 4 freins.
On a tendance à ne pas penser au manque d'accès aux aliments durables. Dans certaines régions, ça peut être difficile de trouver des aliments durables et respectueux de l'environnement.
Oui, c'est vrai. Souvent, c'est dû à des facteurs tels que la disponibilité limitée, les coûts élevés ou les pratiques agricoles locales.
Et non, à 5 freins maintenant.
J'ai un 6e frein en tête. On n'oublie pas les gens qui manquent de temps. Les personnes occupées peuvent avoir du mal à préparer des repas durables et respectueux de l'environnement.
Ça peut être dû à des horaires de travail chargés ou à des responsabilités familiales.
On a fini avec les freins ? Parce que ça commence à faire beaucoup là.
Et non, il reste les habitudes alimentaires qui sont souvent difficiles à changer. Les personnes peuvent être réticentes à essayer de nouveaux aliments ou même à modifier leur régime alimentaire.
Et pour finir, le manque de soutien gouvernemental, qui peut rendre difficile la mise en place de politiques ou de programmes visant à encourager la réduction du bilan carbone de l'alimentation. Ce qui représente un vrai 8e frein. Bien entendu, il n'y a pas que 8 freins.
Avant de vous laisser les écolos, pour ceux qui viennent d'arriver, on va vous faire un petit récap. D'après nous, malgré ces 8 freins, il n'y a pas que du négatif. Il y a des raisons d'être optimiste par rapport à l'éducation de la réduction du bilan carbone de l'alimentation.
Il n'y a pas que des gens qui sont dans le déni. Il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de l'impact environnemental de leur alimentation et consommation.
Qui vont chercher des moyens de réduire leur empreinte carbone. On peut voir que les gouvernements et les organisations travaillent à quelques mesures visant à encourager la réduction du bilan carbone de l'alimentation. Là, tout de suite, j'ai pas vraiment d'exemple, mais peut-être que vous en avez.
Bah oui, Laurie, il y a l'ONU qui va mettre en avant des pratiques agricoles durables et des systèmes alimentaires respectueux de l'environnement.
Attendez, je crois aussi qu'il y a une organisation qui s'appelle la stratégie de la farm to fork. Bon, excusez-moi pour mon anglais, mais je crois que ça veut dire de la ferme à la fourchette.
Ah oui, j'en ai entendu parler. Ça sert à rendre les systèmes alimentaires plus durables, comme en réduisant les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation.
Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la réduction du bilan carbone de l'alimentation est un défi complexe. Mais il est important de continuer à travailler ensemble pour trouver des solutions durables.
Et ce, à toute échelle.
Sur ce, bonne journée à vous les écolos.
Manger demain est une série réalisée dans le cadre d'un projet global en faveur d'une gouvernance alimentaire territoriale en Haute-Vallée de l'Aude. Elle est produite par le lycée Jacques Ruffier et l'association Les Imaginaires en Transition, soutenue et accompagnée par Odyssée, la coopérative de transition écologique en Haute-Vallée de l'Aude, l'association Innovation sociale et développement durable des territoires et la Fondation de France.